Et sur les traces de vie dans une météorite, je l'ai mis dans le bouquin, je ne sais plus quelle page, mais ça a été un coup je crois que c'était à l'été de 97, le patron de la NASA a fait une conférence de presse pour annoncer qu'on avait trouvé des nanobactéries dans une météorite en provenance de Mars. Alors il y a eu une polémique qui a suivi dans les mois suivants, parce qu'on a dit, mais attendez, une microbactérie, ça ressemble étrangement à des cristaux, donc on n'est pas sûr que ça soit vraiment quelque chose de vivant. Est-ce que c'est de la vie, est-ce que c'est pas de la vie? Mais effectivement, c'est une des premières, je dirais, un des premiers thèmes de qui a attiré ma curiosité au départ, parce que quand j'ai commencé à faire cette enquête, avant d'entendre parler de John Mack et de ses phénomènes, je voulais m'intéresser à savoir ce que la science pouvait nous proposer de vraiment consistant et solide sur les hypothèses de vie extraterrestre. Donc je suis allé chercher en premier vers les exoplanètes. Comme certains d'entre vous le savez peut-être, on a découvert en 95, on a eu la confirmation expérimentale de l'existence d'une exoplanète en 1995. Ça veut dire qu'on a observé directement la présence d'une planète autour d'une autre étoile que notre Soleil. Depuis 1995, les découvertes sont exponentielles. On en est à 300, quelque chose comme ça. Donc on est à plusieurs centaines. Donc tout d'un coup, quelque chose qui était théorique il y a encore 15 ans, c'est-à-dire oui, il y a peut-être d'autres planètes autour de Soleil, bah, tout d'un coup, ça devient quelque chose qui est confirmé. Rudy Schill, justement, avec qui j'en parlais à Harvard, m'a dit que selon les modèles actuels, on peut estimer qu'environ 80% des étoiles qu'on regarde dans le ciel ont un système planétaire autour. Donc il va falloir simplement qu'on affine nos instruments pour pouvoir les détecter. Le problème n'est pas un problème de présence, le problème est un problème d'instruments qu'on n'a pas encore développé suffisamment précisément pour pouvoir les détecter. Bon, je grossis à l'extrême, hein, tu me pardonneras si je schématise. Donc voilà, je me suis intéressé à ça, des exoplanètes tout d'un coup. Est-ce qu'il peut exister, non pas une, deux, trois planètes dans l'univers, mais des milliards et des milliards de planètes qui seraient comme la planète Terre, dans une zone d'habitabilité, dans une zone où l'orbite est suffisamment stable et régulière pour permettre que la vie se développe. Donc c'est pas théorique ça, enfin c'est encore de la théorie, mais je dirais que la probabilité est absolument vertigineuse. Donc voilà, c'était un sujet d'intérêt. L'autre point qui m'a frappé, on a effectivement fait beaucoup de bruit à propos de ces nanoparticules qui ont été détectées dans cette météorite en 97, enfin une météorite qui était tombée il y a plusieurs décennies déjà sur Terre. Mais j'en ai parlé avec Jean-Pierre Aigneret, par exemple, qui a fait plusieurs expériences alors qu'il était à bord de la station Mir pour mettre des particules de micro-organismes en contact avec le rayonnement solaire à l'extérieur de la station pour voir s'il y avait une affectation ou non de ces bactéries. Donc on commence aussi à se rendre compte que les particules de vie peuvent être quelque chose d'extrêmement répandu dans l'univers. Là aussi, je vais peut-être être très schématique, mais je crois que c'est Hubert Reeves, que je cite dans mon livre, qui dit qu'en fait, la vie est peut-être quelque chose d'extrêmement banal et extrêmement répandu. Il suffit juste que ces composants qui volaient un peu partout dans le cosmos trouvent une zone suffisamment stable qui permette que le temps puisse se développer dessus. Qu'il y ait une zone suffisamment stable qui dans le temps, qui permette à la vie de se développer. Et là, il y a un autre chiffre, moi, qui m'a profondément marqué. C'est celui de l'âge de notre planète. Le système solaire, d'après les modèles actuellement en vigueur, le Big Bang, l'univers aurait à peu près 13,7-14 milliards d'années d'existence. Et la planète Terre, elle, n'aurait qu'à peu près 4,6 milliards d'années. Ça veut dire que entre le moment où il y a des premières étoiles et des premiers systèmes planétaires probables qui apparaissent dans l'univers et l'apparition de la Terre, il se passe plusieurs milliards d'années. Milliards d'années. Ça a fait dire à Carl Sagan, qui a inventé le calendrier cosmique, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, le calendrier cosmique, c'est une schématisation qu'on doit à l'astrophysicien Carl Sagan, qui est très parlante. Vous prenez le début de l'univers, c'est le 1er janvier à 0 heure, et vous prenez le moment à aujourd'hui, c'est le 31 décembre à 24 heures. Alors pour ne pas dire de bêtises, comme je le cite là, je vais le reprendre, alors je vais vous le lire même. Imaginez que l'instant précis du Big Bang corresponde au 1er janvier à 0 heure, 0 minute et 0 seconde de notre calendrier cosmique et que le 31 décembre à minuit, pile, figure le moment présent. Une journée du calendrier cosmique équivaut à peu près 40 millions d'années de l'âge de l'univers existant. Selon ce calendrier, les premières galaxies jaillissent courant janvier. La Voie lactée, le 2 mai. Notre système solaire amorce sa naissance le 9 septembre et la Terre se forme le 14 septembre. Les premiers organismes vivants apparaissent sur Terre le 25 septembre, à peine 9 jours après, Donc il faut 9 jours, donc 9 fois 40 millions d'années, pour qu'entre le moment où la Terre devient un espace à peu près stable, où le bombardement cosmique arrête et que tout d'un coup l'orbite se stabilise, il faut 9 fois 40 millions d'années pour que la vie apparaisse. Les premières cellules pourvues d'un noyau, les eucaryotes, apparaissent le 15 novembre. L'atmosphère terrestre devient oxygénée à partir du 1er décembre. Le 21 décembre, les premiers animaux quittent les océans et conquièrent la surface de la Terre. Le 28, les premières fleurs. Le 30, les lobes frontaux des primates évoluent. Je vais aller plus rapidement. Et en fait, Lucie, c'est-à-dire le plus vieil ancêtre connu de l'humain, apparaît le 31 décembre à 22h15. C'est-à-dire que l'histoire entière, les 3 millions d'années de l'histoire de l'humain ou du préhumain, tiennent sur une heure et demie de la fin de notre calendrier cosmique. Imaginez juste maintenant qu'une planète comme la Terre se stabilise et apparaisse sur une autre étoile dans l'univers un jour, juste un jour avant. Ils ont 40 millions d'années d'avance sur nous. Qu'est-ce qui peut se passer en 40 années d'évolution ? Voilà. Ça, c'est pas de la fiction, c'est pas du New Age, c'est des modèles théoriques qui sont utilisés en astrophysique aujourd'hui par des gens comme Michio Kaku ou plein d'autres qui font de la prospective sur ce que pourrait être le voyage dans l'espace, l'évolution de notre civilisation, etc. Donc ce sont des modèles qui sont vraiment opérants et utilisés en science. Donc voilà, la théorie dont certaines parties sont confirmées par l'expérience, la découverte d'exoplanètes, confirme que l'apparition de la vie et son évolution vers une forme intelligente est quelque chose de probablement très très banal. Reste le problème des distances, mais alors là, vous conviendrez que, effectivement, si aujourd'hui il nous faut des tonnes et des tonnes de kérosène pour faire démarrer quelques tonnes de métal, faire quitter quelques tonnes de métal une fusée de la planète Terre, on en est peut-être au début de nos outillages technologiques et qu'on sera peut-être capable dans quelques siècles, dans quelques milliers d'années, d'avoir des modes de propulsion complètement différents et que ce blocage de la vitesse de la lumière sera une espèce de vieux souvenir et totalement inopérant. Mais là, on entre dans la fiction, c'est peut-être pas le but de la soirée.